On écoute quelques mesures de Central Park in the
Oh
Dark.
oui, avec joie.
Thank you.
Quelques mesures de Central Park in the Dark. L'un des deux poèmes, le deuxième, c'est La question sans réponse. Je le dis en français parce qu'en anglais,
La
c'est
question sans
déplorable.
réponse, voilà.
C'est une œuvre. Là aussi, on
Les
a
deux
un
sont
collage.
indépendants, voilà, l'un de l'autre.
L'un est le symétrique de
Le
l'autre, le
symétrique de
contre de l'autre.
l'autre,
En
exactement.
tout cas, ça, c'était Central Park in the Dark, interprété par le New York Philharmonic, dirigé, bien sûr, par Bernstein. Ce transcendantalisme, ce n'est pas seulement le collage dont vous parliez, le tout ensemble dont vous parliez à l'instant, Jay Gottlieb, c'est, j'imagine, c'est une métaphysique.
C'est une métaphysique aussi, c'est vraiment toute une histoire de bon, âme dans un surpassement. La notion de transcender, évidemment, toute banalisation, tout simplement, voilà, toute matérialisation, voilà, pour justement transcender vers quelque chose d'autre. Et dans cette période de la vie, de l'humanité tellement stressée, avec crise financière et terrorisme et tout le reste, justement, qui harcèle le monde, ce serait effectivement un bon moment de fixer l'attention, d'adresser la question, mettre le spot sur le transcendantalisme. Ce serait effectivement le bon moment, parce qu'on est bien obligé. Et réellement fixé sur les tragédies, ce qui se passe dans le monde actuellement. Et si on prend ça très, très au premier degré, très au sérieux, il serait effectivement le moment de, je sais pas, de sauter par une fenêtre. Mais on ne fait pas ça, parce que la vie, elle est transcendantale, justement. Tout ce qui est dans le transcendantalisme, justement, nous porte encore ce mot, nous porte beaucoup plus haut, beaucoup plus haut, au-dessus de ça. Au-dessus de ça. Mon rêve, c'est de pouvoir ne pas être obligé de hurler les choses comme ça, mais tout simplement, je ne sais pas, un petit geste, là, un clignotement d'œil, justement, ou de doigt, et ce sera compris. Ça, je ne sais pas encore. Hein. Mais je voudrais bien arriver, justement, à pouvoir venir, ne pas être obligé, justement, de montrer tout le temps, n'est-ce pas, tellement.
Pourquoi vous avez le sentiment d'être mal compris quand...
Non, non, non,
Non?
je dans la forme,
Ouais.
dans la forme, de lever la voix comme ça.
Moi, c'est quand même votre nature, quand
J'aime la
même.
communication.
Vous êtes un homme de spectacle, quand même.
C'est sûr. J'aime
Vous
communiquer. C'est ce
êtes un homme de
et
théâtre.
c'est ce que j'ai en commun avec Lanny, avec Bernstein, effectivement. C'est un homme aussi de scène, de théâtre, qui réfléchit bien. Il suffit de suivre justement les conférences qu'il a données pour savoir que c'est un homme qui réfléchissait. D'ailleurs, ça l'a miné pour revenir à Bernstein. Les gens qui disaient, oh, quel homme à tout faire. Il fait tout. Tout, il compose, il est un pédagogue extraordinaire, quel chef d'orchestre, quel pianiste, oh, tout ce que, c'est une chose qu'il fait, il est toujours dans des situations humanitaires, politiquement engagées, ça n'arrête pas les talons de Guarlaini. Oui, on parle de ma facilité. Quand parle-t-on des heures innombrables que je dépense au travail? Pourquoi on ne parle pas de ça? Je me demande. C'est tout
Il y a
dire.
l'homme secret et il y
C'est
a
tout
l'homme public.
dire. Oui, mais personne ne parle de ça.
Mais tout est un,
En
vous le
quoi que
dites.
tout ça sort comme ça, voilà, un claquement de doigts, et soudain, il y a une candide écrit, et le Jeremiah Symphony, et le Kaddish Symphony. Désolé, le travail est énorme.
Comment vous êtes-vous, Jay Gottlieb, quand vous êtes seul? Là, on vous voit en représentation, finalement. Hein? C'est un spectacle radiophonique que vous nous donnez. Comment vous êtes quand vous êtes seul?
J'étais élevé, et pas mes parents, surtout ma mère, et Nadia Boulanger, mes professeurs, etc., être en éveil. Voilà, donc dès mon plus jeune âge, c'était une histoire de soit on est en éveil, soit on est mort. Donc il fallait du temps pour déjà découvrir la joie et la santé, encore une fois, d'arriver au rien, de rien, le vide, le zen. J'ai un ami qui prête à New York, qui pratique justement très sérieusement le zen et la méditation, que je ne fais pas d'ailleurs. Je dis tout de suite, je ne fais pas la méditation.
Vous pourriez faire?
J'ai ma façon, à ma façon. C'est comme la
Mais c'est toujours un
spiritualité.
peu,
C'est comme la spiritualité.
c'est toujours un peu speed,
Non, mais
j'imagine.
je n'ai pas besoin de l'église justement pour être justement dans la spiritualité. Je n'ai pas besoin d'aller dans un cours de yoga. D'ailleurs, j'en ai fait, merci, je sais m'exercer mon corps, tout à fait. Ou un cours de méditation, pour méditer, je sais très bien comment faire. Merci, je sais respirer, je sais pratiquer justement tout cela. Mais il fallait du temps, effectivement, pour réellement entrer dans le zen, le rien, de manière voulue, comme exprimé comme ce maître à New York, aller nulle part avec un but. C'est sa définition du zen. Et j'aimais beaucoup. Aller nulle part avec un but. Et c'est l'histoire de volonté dans tout ça, c'est vrai. Et normalement, il faut écraser la volonté quand on est réellement dans le zen et dans l'oriental. De devenir le véhicule à travers lequel, justement, la réalité, la vie passe, évidemment. C'est ce que Stravinsky a dit d'ailleurs au sujet du sacre du printemps. J'étais le vide à travers lequel est passé le sacre. D'ailleurs, je dirais, oui, le mi avec l'accord de mi avec l'accord de mi bémol en premier renversement. Oui, c'est sûr que oui, le passé lui a bien passé à travers. Mm. Merci. Voilà. Soyez pas si effrayé par le sac du printemps.
Mais alors, l'idéal, ce serait d'aller vers un état de non-désir, c'est ça que vous
dites.
Donc,
le non-désir là-dedans. Mais là, je comprends très, avec beaucoup de difficultés, parce que le mot désir
c'est
était
votre
le mot le plus important, pratiquement, avec amour, prononcé par Nadia Boulanger. C'était désir. Sans désir, je ne comprends pas. Et elle citait son ami pour Valérie, les mots écrits sur le mur devant le Trocadéro à Paris.
C'est quand même très paradoxal ce que vous nous dites là de Nadia Boulanger. L'image de Nadia Boulanger, c'est cette dame quand même très stricte, hein, institutrice, d'allure, toujours en
mode. Pas d'amour tout le temps, mais pas d'amour, amour. Elle a dit amour, si vous n'aimez pas, un amour. Et sa voix est devenue comme ça. Ah non, c'est aller trop vite, parler d'elle, exigeante, rigueur, et tous les termes célèbres qu'on applique à Boulanger. C'est aller beaucoup trop vite, elle était beaucoup plus que ça. Je proteste. Amour, sans un amour, vous pouvez avoir toute la technique de la terre, tout le génie, le talent, formation, tout ce qu'on veut. Si vous n'avez pas un amour inébranlable, immense, total, vous n'êtes rien de tout. Mais je cite Boulanger.
Vous voyez, j'ai goûté.
Amour.
Est-ce qu'un jour vous vous libérerez de cet amour justement que vous avez pour elle? Vous n'êtes pas captif, en somme, de Nadia Boulanger,
j'ai goûté. Non, mais elle prononçait merveilleusement en disant, mais je voudrais, pour le travail de formation qu'on fait, devenir votre conscience. Donc, si on prend ça encore une fois, au mot, justement, elle ne vous quitte pas. Mais elle m'a quitté parce qu'elle a dit, mais elle détestait que ce soit moi, Nadia Boulanger. C'est vous qui m'intéressez, c'est vous qui existez. Moi, je fais tout justement pour faire sortir. En fait, avoir mal compris qui je suis, si vous êtes là trop dédié à moi. Elle ne voulait pas ça. Sa mission était de vous rendre vous, complètement vous. Je trouve qu'elle a réussi parce que je me suis trouvé grâce à elle complètement. Mais elle a fait tout pour que je la trouve.
Il y a une autre influence que vous avez reçue, J. Gottlieb, c'est celle de Stéphane Wolpe. Vous pouvez en dire un mot?
Quelle merveille. Oh là là. Cet homme était aussi... J'ai eu la chance, j'avais 11, 12, 13, 14 ans. J'étais vraiment teenage, avant même teenage, avec elle. Avec lui, il est avant Boulanger dans ma vie. C'est un de mes premiers professeurs, vraiment magnifique.
Oh là. Mais qui c'était, vous pouvez nous le dire?
Ce qui est fantastique, c'est qu'il était évidemment élève de Webern, Schoenberg, Busoni. Il a vécu le Bauhaus, Weimar, et travaillant avec Paul Klee, etc., avec des œuvres communes, enfin, bon, Kandinsky, ses amis Paul Hindemith, etc., bon, les Busoni, Webern, et tout cela, bon.
Il était arrivé à New York, alors.
Et il était à Palestine et Israël, et après New York, où il a vécu la plupart de sa vie adulte, où il a influencé tellement de gens, notamment Morton Feldman et plein d'autres compositeurs, qui étaient son élève par la suite, et le jazzman, qui aimait beaucoup une préoccupation avec les rencontres des contraires. C'est encore le transcendantalisme, voilà, c'est les rencontres des choses un peu opposées. Et lui aimait beaucoup justement que les choses soient très imprévisibles, justement. Donc, rythmiquement et dans sa musique surtout, harmoniquement, c'est très école de Vienne, de l'écophonique, bon, mais pas seulement, il s'est libéré de ça. Il s'est libéré de tout, d'ailleurs. C'était une musique d'une liberté extraordinaire. C'est un comme l'homme, d'ailleurs. Donc, comme professeur, c'était assez inédit, je dois dire, parce qu'il tenait tellement à cette liberté et imprévisibilité que souvent, il lançait peut-être des germes de quelque chose et nous, les petits, il voulait qu'on trouve. Il était, dans un sens, beaucoup trop sophistiqué, je dirais,
pour
les petits, pour les jeunes enfants, pour les petits. Il y avait des gens de tout âge. J'étais un des plus jeunes, je dois dire. Il y avait des gens quand même 20, 21, 22, 23. Et moi, la moitié, non, n'exagérons pas. Mais si, il y avait des gens de 24 ans, j'avais 12 ans, si, j'étais la moitié. D'ailleurs, chez Boulanger, c'était le cas aussi. J'étais la moitié, même le tiers de l'âge de beaucoup de gens qui étaient là. Ce qui était extraordinaire, quel maître les deux, ce qu'ils avaient de semblable, les deux, Wolpe et Boulanger, c'est le lancement de petits germes, petites choses incomplètes pour qu'on trouve nous. Difficile quand on est très jeune. C'était parfait avec Boulanger. J'étais enfin, ça allait, mais parce que j'avais déjà passé par Wolpe et d'autres merveilleux profs, il faut dire, formateurs à New York. Eux, anciens élèves de Boulanger, les autres profs que j'avais là-bas, les glorieuses inconnues, Louis Martin, je pourrais citer une longue liste, les gens extraordinaires qui m'ont préparé pour Boulanger de manière exquise. Donc j'ai eu une chance, j'étais pas jeté au lion tout de suite, j'étais formé, et elle m'a aimé pour ça, et on pouvait vraiment travailler complètement, voilà. C'était pas les tout débutants non plus. Donc c'était juste ce qu'il fallait comme niveau pour elle. Mais Volpe, pour revenir, était très radical. Déjà, comme j'ai dit, en venant de travailler avec quelqu'un comme Busoni, comme Webern et Schoenberg, connaissant tout, mais aussi dans ces asymétries, insistant tellement dans cette approche tellement radicale. C'est ce qu'il attendait de nous dans les travaux. Il voulait que les choses soient un peu d'école, et puis qu'on quittait ça et qu'on devienne beaucoup plus justement imprévisible.
Comment vous êtes-vous comme prof?
Et ça, c'est difficile.
Comme professeur,
vous... Je suis mélange de choses. Je suis probateur et voilà, stimulateur et montreur. Je suis les deux, je suis les deux. Trouver, et puis je montre.
Vous montrez
je
quand montre, même, parce que ça vous démange.
Oui, mais oui, j'aime beaucoup jouer trop au piano, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que je suis une synthèse, finalement, d'évidemment tout ce que j'ai pu connaître. Mes profs n'en sont pas... C'est sûr, très formateur, Stéphane Volpe et Boulanger, ça c'est évident.
Tout en même temps, quoi.
Longtemps après avoir fréquenté ces gens, j'étais avec des gens comme Giacinto Scelsi, compositeur, c'était pas... un professeur au terme proprement dit, mais une énorme influence, une grande influence. Moi, j'étais déjà, voilà, mûr, je sais pas, 30, 35 ans, j'étais déjà lancé dans une carrière quand j'ai rencontré Chelsea. Et j'ai joué pour lui, et c'était comme un maître, un gourou extraordinaire. Et lui était un des grands pour me montrer la valeur de rien. Justement, parce que lui, il méditait, faisait du yoga tous les jours. Giacinto Scelsi, c'est radicalement l'autre pôle par rapport à ce que je suis en train de décrire. Les gens qui disaient soit on est éveil et en fascination devant la vie, ou on est mort. Rien entre les deux. Lui, évidemment, le tout contraire, justement. Là,
dépouillement, la nudité.
Complètement dépouillé, complètement, voilà. Des pièces sur une note, souvent, comme ça. Écoutez le son du battement du cœur, du son. Des phrases comme ça, et le cœur du son, entendre battre le cœur de chaque son. C'est cette extraordinaire pénétration orientale à l'intérieur, comme ça. Et ça, tout cela est parti de moi aussi. Donc, pour répondre à votre question, que je n'ai pas oublié comment je suis quand je suis seul, et pas en représentation, je dirais que je peux parfaitement naviguer entre le rien, comme ça, et être pas aussi speedé que ça, ou au contraire, être en éveil comme ça. Mais c'est sûr qu'en règle générale, si en règle à dire dans ma femme, modus operandi, je suis plutôt en éveil et curieux de voir voilà, ce qui se passe tout le temps, les situations dans lesquelles je me trouve, c'est vrai. Mais je sais très bien fermer les yeux et être dans le rien aussi, merci, je dors très bien. Je vous dis ça tout de suite. C'est carte blanche, je peux dire ce que je veux dire. Je ne suis pas dans nuit blanche, absolument pas du tout. J'estime que l'artiste doit se protéger. Ça, c'est encore pour Valérie, si t'es pas Nadia Boulanger. Mais en fait, avec le temps, j'ai découvert que c'était Sénèque, dans le 6e siècle, qui avait déjà dit ce que pour Valérie a cité et ce que Nadia Boulanger a cité. C'est amusant, comme on sait toujours le tout dans le tout, dans le tout, dans le tout, dans le tout.
Tout est dans tout et réciproquement.
Tout est réciproquement, voilà, c'est toujours... Et la phrase est... Pour réellement raconter ses rêves, on doit être complètement éveillé. Donc, si je vais bien jouer, il aurait fallu que je dors bien la veille. Voilà le message. Voilà.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Berg ou Ravel, par exemple?
J'aime les deux. Alors, vraiment, voilà, par où commencer, j'aime les deux.
Alors, Stephen Wolf, vous faisiez allusion à l'école de Vienne. On écoute Berg alors, un extrait de la Loulou Symphonie.
Loulou Symphonie me renverse complètement.
Pourquoi
sûr. Pourquoi une œuvre renverse? Pourquoi une œuvre
tension? Oui, on revient toujours à la même question.
Toujours la même question, c'est quand on ne sait plus, ça c'est sûr. Ça, je vois les émotions là-dedans, que ça me secoue, sont tellement fort. Par hasard, je dirais, il s'agit d'un opéra. La forme ne m'intéresse pas spécifiquement. Je ne suis pas opéra, je ne suis pas symphonie, je ne suis pas quatuor à cordes, je ne suis pas piano, je suis musique. Je suis musique, voilà. Je suis art, je suis... Voilà, on aurait compris ça après quelques heures ensemble. C'est l'œuvre qui parle, voilà. Donc, ce n'est pas une histoire de compositeur. Je n'ai pas chaque note d'Alban Berg. Je n'ai pas chaque note de Maurice Ravel. On est clair, OK. Mais Loulou, et surtout la symphonie, c'est-à-dire c'est ramasser le grand moment de ces 3 heures et demie d'opéra de Loulou dans cette forme symphonie-là qu'il a faite, que je trouve merveilleuse parce que cela, en fait, pouvait être donc joué et chanté avec la soliste, qui, la femme, la soprane qui chante le rôle de Loulou dans ces extraits, peuvent chanter en situation de concert et pas être obligés donc d'être avec ces situations scéniques et décors et costumes et orchestres et tout cela qui est très démesuré parce que c'est énorme une production de Loulou. Donc ça ne m'intéresse pas, voilà, on est très clair. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu de Loulou. Voilà. Cette histoire, déjà, me fascine. Je trouve extraordinaire la fameuse femme sans âme, pour qui tous ces hommes se tuent et s'entretuent. Extraordinaire. Et elle qui se dit, mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien demandé. Pourquoi tout ce tralala? Ça, déjà, me fascine. Ça, c'est extraordinaire. Et Berg était évidemment extraordinaire, très fasciné par cela aussi. Cette boîte de Pandore, l'esprit de la terre de Webkin. Incroyable. Déjà comme trame, comme histoire. Fascinante, d'accord. Et la dépravée là-dedans, la limite atteinte dans cela, sans surprenante, encore ce mot surprise. Mais où il se dépasse, c'est dans la musique, évidemment. Et voilà, c'est le sujet. Et cette symphonie qui résume donc merveilleusement tout l'opéra, ça tire sur moi, voilà, mais alors un effet émotif, ça c'est sûr, émotionnel. Les plus forts. Mais encore une fois, c'est les dispositions des accords, c'est les accords eux-mêmes, les agrégats eux-mêmes, c'est la ligne mélodique, la contenu intrinsèque justement de la chose qui fonctionne extraordinairement. Donc là, il y a ce mariage parfait de forme-fond.
Yeah!
un extrait de la Loulou Symphonie d'Alban Berg, bien sûr, dans l'interprétation de Margaret Price et d'Abbado, de Claudio Abbado.
À pleurer.
Un choix de G. Gottlieb. Tout à l'heure, G. Gottlieb, vous avez nommé Oana, par exemple.
Oui.
Vous avez nommé Chelsea.
Oui.
Mais il y a plein de noms, ceux que j'ai un petit peu évoqués dans mon chapeau d'introduction, Crumb, Bruno Mantovani, pour les plus jeunes, Betsy Jolas, qui a composé pour vous, John Cage, que vous avez interprété, Philip Glass, John Adams, etc. Voilà.
Tout ça, c'est très long.
La liste est très longue de ceux avec qui vous avez travaillé, Boulez ou Ozawa, enfin pour ce qui est des partenaires sur scène.
Voilà.
Tous ces gens-là vous ont fait, en somme.
Oui, c'est ça. Mais je crois que non, la vie est faite évidemment des rencontres, ça c'est une banalité. Mais surtout, la vie n'est pas linéaire. Ça, j'ai pu vraiment conclure. Et c'est ce que je disais, voilà cette phrase que disait Boulanger, que c'est encore elle. Il est couché de soleil sur des phénomènes. On vit sa vie comme ça. On est tout, parfois en éveil, voilà, assiduité comme ça, virulente comme ça, un peu speed. Et au contraire, après, complètement voilà, dans le rien. Le vide, le zen, comme ça, l'équilibre est vraiment à souhaiter, tout simplement. Je suis ravi d'avoir pu connaître et de continuer de connaître. Toute ma vie, c'est vraiment un compositeur tellement varié, déjà, d'approches différentes, mais comme on l'a dit, la musique est la cristallisation de toute une vie, et la vie est tellement variée, alors évidemment, tout le monde va avoir des approches différentes, et heureusement. Et
comment on arrive à changer de personnalité selon qu'on
et,
joue
Mais quand on joue Beethoven et on joue Brahms, on change de personnalité, on joue Schumann, et après on joue Debussy, c'est rien à voir. Et voilà, c'est notre rôle déjà. Ça, c'est une histoire, on peut dire presque de scène, c'est vrai, on est un peu acteur. Le musicien, là, quand il joue justement une pièce baroque et après il joue une pièce d'impressionniste, on est très loin. Et voilà, tous ces compositeurs qui sont voilà, de planètes parfois si lointaines, encore une fois, il faut se mettre dans toutes ces peaux. Et comme je dis, quand on peut les fréquenter, là, on peut aller le plus loin possible dans ces peaux-là.
Ligeti, vous l'avez fréquenté?
Oui, je l'ai connu. Oui, fréquenter, c'est un grand mot, mais j'ai fréquenté plus son fils. Je connais
Andras.
Bien le fils Luca, le fils Luca. Qui est percussionniste, qui m'a écrit une pièce d'ailleurs. Et là, papa est mort trop tôt pour écrire quelque chose pour moi, mais Luca Ligeti a écrit une pièce pour piano, Trinité, que j'ai enregistrée d'ailleurs. World Music est très, voilà, très chébran, branché, tendance, tout ce qu'on veut. D'ailleurs, il était très précieux. Pour son papa, Giorgio Ligeti, à lui montrer la musique du monde, voilà, la musique africaine, enfin jazz, parce que le fils est jazzman, musique du monde, etc., musique africaine, et tout ça. Mais bon, c'est des choses maintenant très sues, peut-être, vous ne savez pas, chez auditeur, mais je vous le dis, dans le cas où, vous n'étiez pas au courant que Ligeti, l'immense Ligeti, était très féru de musique du monde.
Mais c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure,
oui.
G. Gottlieb, les créateurs, les grands compositeurs qu'on connaît, là, savent tout, sont au courant de tout.
Ils doivent être au courant.
Il faut qu'ils le soient.
Pour aller le plus loin possible, il était très, très voilà, à la page avec les mathématiques actuelles, avec les fractales de Benoît Mandelbrot, la loi du chaos, tout cela le fascinait et il l'appliquait à ses œuvres, c'est ça qui est formidable. Et puis qu'il a entendu les chants complètement décousus, extraordinaires de ses voix indépendantes de musique africaine, ou le chant incroyable, voilà, des gens d'Alaska, il a incorporé dans le grand macabre, enfin, etc. Il a utilisé évidemment toute cette vie dans son œuvre. Voilà ce qui est riche quand on rencontre des œuvres de compositeurs, on rencontre des vies, évidemment. Et puis on peut lire quelques romans et quelques livres aussi, justement pour compléter. Et puis on a pas mal de visions sur la planète.
Vous avez voulu vous faire passeur de tous ces créateurs du 20e et du 21e siècle.
C'est une responsabilité après fréquenter ces pointures extraordinaires. Je trouve que ça devient effectivement la responsabilité, là, de passer.
Est-ce que vous avez le sentiment maintenant, ça fait quand même ce jeu-là, ça fait un certain temps que vous le jouiez, que ce jeu de passage, de transmission. Est-ce que vous avez l'impression que les publics captent mieux maintenant ces musiques-là, qu'elles entrent en somme dans le patrimoine?
Ils rentrent quand ils ont des clés. C'est sûr. Il y a des musiques. Si on joue des choses, enfin, choses, quel mot utiliser, enfin, des œuvres qui sont vraiment de grande complexité, c'est, je dirais maintenant, presque pas assez de justement entrer sur scène et jouer. Et puis le public est laissé un peu perplexe, souvent devant cette complexité. Il faut en parler. Récemment, j'ai joué à Genève, dans un festival, je souhaite justement le mentionner au passage, Michel Saunier, un homme que j'apprécie énormément, compositeur, pianiste, organisateur, humaniste, il est aussi voilà, quelqu'un qui passe et transmet. Et il a suggéré, et j'y ai pensé indépendamment aussi, il fallait parler au public avant chaque œuvre. C'était une œuvre. Le propos était la musique du XXe siècle, XXIe siècle. Voilà. Donc j'ai commencé avec le début, avec Satie, 1900, et je suis monté dans le temps, jusqu'à maintenant. Et en passant par plein de compositeurs, voilà, le long du passage. Plus on avançait, plus que c'est difficile vraiment d'appréhender, de percevoir. J'ai senti la chaleur, le remerciement déjà pour l'éclaircissement, mais beaucoup plus que ça. Peu importe, non, je suis ravi qu'ils me remercient pour ça. Ils ont eu une expérience beaucoup plus riche comme résultat. Ils ont pu pénétrer beaucoup plus à l'intérieur de l'œuvre grâce à ces clés.
Parce qu'il nous manque la syntaxe quand même pour beaucoup de ces œuvres. La syntaxe oui. de la composition classique, oui. même Beethoven qui s'en écarte par ailleurs. Exactement. Mais on a le vocabulaire et on a la syntaxe, on comprend comment ça marche.
Oui, c'est un peu le
meilleur des
oui.
cas. Tandis que pour la musique contemporaine, reconnaissez, vous qui en faites beaucoup, que parfois il nous manque les clés.
Et encore, parfois je me suis trouvé dans des situations où je parlais de Mozart et de ses fameuses asymétries. De ces dissonances, justement, utilisées de manière si savoureuse. Et ils ignoraient, ils n'étaient pas très clairs là-dessus. Et ils écoutaient avec d'autres oreilles par la suite. Donc, même la musique du passé, vous savez, la musique, c'était un art complexe, difficile. Et même les choses qu'on croit acquises, pas si évident que ça. Et on entre beaucoup plus si on a quelques clés, quelques repères. D'autant plus urgent quand il s'agit de Stockhausen, de Ligeti, je ne sais pas, de Berlioz. C'est mieux d'avoir un peu plus justement de ça. Récemment, j'ai joué un concert à Paris que de Stockhausen. C'était pas mon choix. On m'a demandé de faire ça. Moi, j'ai préféré des choses plus panachées, pour être franc. Vraiment. Mais là, que de Stockhausen. C'était le thème. Très bien. Que de Stockhausen, vous aurez. Mais je suis entré sur scène. J'ai écourté la durée des pièces jouées pour permettre le temps de la parole. Et le concert consistait à parole et musique, en alternance. Chaleureux applaudissements, parce que compréhension, tout simplement. Mais qu'est-ce que je souhaiterais pouvoir faire ça en chuchotant, je me répète ce que j'ai dit, et pas hurlant comme ça. Je voudrais bien trouver le secret de faire ça. Pour l'instant,
mais
j'ai
si
pas trouvé.
Si c'est votre,
j'ai pas trouvé.
C'est
ce,
votre
j'ai
manière d'être, pourquoi pas. Vous savez, il existe un, ça se trouve en DVD, c'est tout à fait passionnant. Une explication par Boulez, il est devant un public, ça se passe, je ne sais plus où, à la Cité de la Musique, et il explique sur incise cette pièce de lui.
Oui, je connais.
Avec tout un groupe, il y a quatre pianistes, trois harpes,
il y a toi et toi.
C'est très compliqué comme
toi
structure.
Toi, piano,
et il démonte cette œuvre, alors plutôt en chuchotant, lui, parce que c'est sa manière. Oui. C'est d'une clarté limpide, et on entend vraiment la musique. Qu'avant, on
entend. Oui, il aime beaucoup expliquer.
Et avant, on ne l'entend pas vraiment, il faut reconnaître. Oui. Sans ces clés-là.
Lui, il est très bon passeur aussi. Voilà, exactement. Il sait maintenant, il faut expliquer, il faut parler. Et il fait vraiment une éthique de ça. Il parle tout le temps dans les œuvres.
Éthique, le mot est assez bien choisi. C'est une transmettre, c'est une manière de morale, finalement.
Pour moi, c'est ça. Oui, finalement. Oui, je trouve vraiment. On n'est pas suffisamment responsable, suffisamment à la hauteur de juste imposer ces choses sans explication. On est dans un autre temps, un autre espace, un autre. Totalement autre mode d'emploi. Totalement. Il faut qu'on procède un peu d'entrée dans tout ça. Et après, on apprécie.
On écoute la troisième des trois pièces pour deux pianos de Gheorghe Ligeti.
Oh là là. Une des merveilles de tous les temps.
J'ai encore vous posé la même question.
Pourquoi
merveille?
Pourquoi merveille? Parce que je ne comprends rien. Non, je comprends tout très bien. Il y a là, on voit Debussy très bien, c'est sûr. Mais là, il y a une espèce d'accumulation extraordinaire, un effet d'accumulation de pouvoir émotionnel là-dedans, où on commence quelque chose de très diaphane, comme ça, entre deux pianos, comme une rivière qui coule, et puis de plus en plus d'accumulation, et puis un agrandissement, et puis soudain, il y a le vertical. Donc on est dans l'horizontal. Je reviens toujours à cette image de Celibéda, qui est cette horizontale, qui coule, qui élargit, et soudain, c'est vertical qui entre là-dedans. Mais les deux qui sont simultanés. Il y a cette coulée, de couler, la coulée, de lave, tout ce qu'on veut, de rivière, continue. Et soudain, il y a ce bloc qui sont là. Et puis, au bout de ces blocs comme ça, c'est une espèce de monolithe qui se présente dans le vertical. Il y a une espèce de chorale de Bach, presque, je dirais, comme ça. La prière, la fin, et ça se dessous. Ça me bouleverse, voilà. Cette petite trame que je viens de décrire là, en termes musicaux, c'est pas long, voilà, on la perçoit très très bien, me bouleverse complètement. Je veux, encore une fois, les combinaisons, les agrégats, très très heureux.
Nous écoutions la dernière des trois pièces pour deux pianos de Gheorghe Ligeti, interprétée par les frères Kontarski, Aloïs et Alphonse Kontarski. Vous avez été élève
d'Aloïs à Darmstadt.
Et à micro fermé, vous me racontiez encore une anecdote de Nadia Boulanger.
Il y en a
des kilomètres. Mais elle est très jolie parce qu'une petite élève était venue jouer devant elle parfaitement. Enfin, tout était perlé.
Voilà.
Et mademoiselle lui demande donc... quand êtes-vous grimpé dans un arbre pour la dernière fois, jeune fille?
Oui, c'est complètement scolaire, inintéressant, complètement, sans vie, voilà, sans subtilité, sans mille choses. Voilà. On ne va pas entrer dans tous les détails qui font qu'un phrasé, qu'une distribution, organisation entre les voix de ce qu'on joue soit plus intéressante. Il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais Elisabeth, tout cela manquait, justement, tout cela. Mais quand la dernière fois, mademoiselle, vous grimper dans un arbre. La fille a 13 ans, on est avec un chignon qui ressemble à une femme de 85 ans, qui est à peu près l'âge de Boulanger d'ailleurs, à ce moment, dans le temps. C'est ça qui est amusant. Qui est le jeune et qui est le vieil dans cette histoire? Voilà ce qui est amusant. Boulanger, quand la dernière fois vous êtes grimpé dans un arbre? Voilà, la femme de 85 ans qui demande. La fille de 13 ans répond, pas du tout, jamais. Très fière, n'est-ce pas, d'être si sérieuse, disciplinée, rigueur, exigeante, qui était évidemment Nadia Boulanger, évidemment. Oui, ça s'entend, dit Boulanger. Très cruellement, mais pour donner la leçon que la musique est tellement immense et nous dépasse et cristallise tellement le tout de cette existence que seulement la jouer comme ça, machinalement, ne suffit pas. Qu'elle est tellement énorme qu'une vie réellement vécue est exigée pour être à la hauteur, pour la servir convenablement.
J. Gottlieb, si vous n'aviez pas été musicien, s'il n'y avait pas la musique, qu'est-ce que vous seriez devenu?
Philosophe.
Oui, vous avez été d'ailleurs philosophe, enfin, vous avez étudié de la philosophie à Harvard, notamment, tout de même.
J'ai étudié, mais le prof disait que j'étais doué même pour ça, et a suggéré que je devienne philosophe. Et je lui ai dit, très bien, c'est la preuve que votre cours était très bien donné, qu'on est devenu philosophe au bout d'un tout cours, qui était vraiment un an, c'est pas une vie, un an, c'est rien, c'est quelques mois. Je dis même pas un an, c'est deux semestres.
J. Gottlieb, pour finir, vous avez enregistré énormément de disques, parce que là, on vous a entendu beaucoup parler, oui. Et peu jouer du piano, mis à part cette petite pièce de Luciano Berio tout à l'heure.
Oui.
Vous avez enregistré des tas de choses,
oui,
beaucoup.
C'est... Oui, sûr.
Qui, par exemple? Et quels sont les disques de vous que vous conseilleriez comme ça aux auditeurs?
Donc
vous êtes content, ou vous avez l'impression d'avoir été transparent, justement, d'avoir été un bon passeur?
Oui, bien sûr. Et c'est encore une histoire de rencontre. Je n'ai pas enregistré. C'est surprenant les choses que je n'ai pas enregistrées. Je ne prendrai pas l'autre bout.
Mais les conseillers, les disques
c'est
que
vous avez passés. C'est extraordinaire les choses que je n'ai pas enregistrées. Les choses... Maurice et Oana. Je donne un exemple. J'ai enregistré des œuvres de Oana. J'ai au moins trois disques, je crois, Oana. Mais pas les études qu'il m'a écrites. Qui est surprenant. Écrit pour moi. Je n'ai jamais enregistré. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres projets. Il y a tellement de choses. J'ai un projet là, un disque qui va sortir bientôt, c'est déjà fait, l'enregistrement. Nicolas Obouhoff, qui connaît Nicolas Obouhoff, très peu. Et pourtant, c'est la plus grande influence sur Messiaen. Voilà, je l'ai dit. Voilà, scoop. Mm-hmm. Scoop, scoop, scoop. Voilà. Lui qui disait toujours musique russe, influencé, mais un peu vague, exprès, parce qu'il ne voulait pas nommer la source, mais c'est un certain Nicolas Obouhoff, mort en 1954, pour situer, qui a écrit la musique quand Messiaen avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui est de pure Messiaen, enfin même très Messiaen, voilà, mettons. Et quand Messiaen découvre cette musique de cet Obouhoff, qui a émigré de la Russie en France dans les années 30. Il rencontre Ravel, qui n'a pas longtemps à vivre, mais quand même, il est là. Et Ravel dit, mais vous êtes un musicien extraordinaire. Et il fait tout pour l'aider, seconder. Il trouve même une maison pour lui et sa famille. Il trouve un éditeur, Durand, qui édite quelques de ses œuvres. Il présente à toute la planète. Il y a Honegger qui est bouleversé par Obouhoff. Messiaen, oh là là, non seulement... intéressé, troublé, jusqu'au point de l'utiliser. Voilà. Et c'est surtout les accumulations. J'utilise voilà, très rapidement voilà, pour les compositeurs qui sont là. Voilà. Mais c'est une musique qui est bon, très illuminée, encore ce mot, et en extase, très souvent extatique. On l'a appelé l'illuminé. C'est le terme qu'on utilisait pour cet homme. Donc, c'est une grande spiritualité. Vous reconnaissez quelque chose ici, cher auditeur? Oui, messieurs en grande spiritualité, grande illuminée aussi. Voilà, donc il y a beaucoup de points de rencontre là, et d'entente. Mais là, c'est l'orthodoxie russe. C'est pas messieurs, catholicisme, peu importe. Voilà, ce qui est intéressant, c'est une très grande, riche spiritualité. Et l'application musicale. Bien. La musique était difficile à trouver. Ils ne voulaient pas que ça soit trop diffusé. C'était une élitiste. C'est très spécial, ce monsieur Oboeuf. Heureusement, ses héritiers avaient ses partitions et un grand spécialiste de sa musique, ancien élève de monsieur, a acheté cette musique. Il me l'a confiée. Je l'ai enregistrée. Elle va être... Ouf, ouf, il faut suivre tout ça. Le disque va sortir bientôt et la chez musique sera éditée. Je vous dirai plus tard.
C'est, voilà, secret,
c'est
bon.
En discussion. Voilà. Mais une compagnie subsidiaire d'abeilles. Voilà,
bon.
Voilà. Elle sera éditée par Le Moine. Les éditions Le Moine vont éditer cette musique qui est inédite.
Nicolas Oboeuf.
Nicolas Oboeuf. Je vous donne le scoop. Non, mais je vous donne ça comme exemple de pourquoi je n'ai pas encore enregistré les œuvres qui semblaient tellement évidentes que j'enregistre des études écrites pour moi, créées par moi, de Maurice Ohana. Eh oui, voilà. Voilà la vie. J'ai enregistré au lieu de ça Nicolas Oboeuf. Voilà, c'est tout un autre projet. Ou bientôt Giacinto Scelsi, les préludes. Je vais enregistrer bientôt. Voilà, l'intégrale des préludes qui ont été un scoop aussi. Beaucoup étaient totalement introuvables. Certaines étaient données à certains pianistes qui juraient de ne plus partager avec le monde. Ils m'avaient donné à moi-même 8 de ces préludes. Personne d'autre ne les avait. Bon, très spécial, M. Scelsi. Alors maintenant, enfin, ces préludes sont réunis, celles qui existaient déjà en édition, très obscures d'ailleurs, d'autres, voilà, qui étaient dans les mains de particuliers, et la technique. Voilà. Mais ce qui m'empêche
de... De toute façon, la liste des disques très nombreux que vous avez enregistrés, on la trouve sur votre site internet, que nous mettrons en lien sur le nôtre. Mais je retiens cette phrase que vous avez dite il y a une seconde. Voilà la vie.
Voilà la vie. Eh oui, c'est amusant, hein. Voilà, ça tourne, ça contourne, ça. Et c'est une histoire de rencontre. Je découvre par des musicologues Oboeuf, j'en joue. Soudain, un autre musicologue me fournit avec l'intégralité pour piano, j'enregistre. Et voilà, comme c'est merveilleux. Totalement inattendu, non linéaire et tellement enrichissante.
Merci beaucoup. Merci de ce long moment que vous nous avez accordé.
Merci à vous.
Merci, J. Gottlieb. Voilà, c'est ainsi que va se terminer pour aujourd'hui. Comme il vous plaira, comme il vous plaira, dont l'invité était le pianiste américain de Paris, et d'ailleurs représentant officiel de la musique américaine de par le monde, désigné par son gouvernement, J. Gottlieb, qui sera d'ailleurs à Lausanne pour un concert au Casino de Montmenon le 17 mai. C'est pas tout de suite. Fin donc de ce « Comme il vous plaira », proposition de Charles Sigel avec l'assistance de Gabriel Widmer. La réalisation aujourd'hui était due à Gérald Diestan. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 13h30, pour une nouvelle rencontre. Dans quelques instants, vous savez, vous serez à l'écoute des mondes. À bientôt, au revoir, merci.